Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il est 10h30, vous êtes bien sur CNews. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces 2h30 d'informations, 2h30 d'infos et 3 rendez-vous. Vous les connaissez. 10h30, 11h, le premier journal analysé par mes deux premiers invités. 12h, 13h, 1h de débat, 1h de décryptage, décrypté justement par 3 grands témoins. Et puis 13h, 14h, vous connaissez ce rendez-vous, le grand journal de la mi-journée de CNews. Tout de suite, voici les titres de ce premier journal. À la une, on va prendre la direction de l'île de Ré et l'on va reparler de la polémique autour de la désormais très célèbre statue de la Vierge Marie. À la demande d'une association de défense de la laïcité, elle doit être déboulonnée. Une manifestation de soutien va avoir lieu cet après-midi. Ambiance sur place avec Jérôme Rampenou. Dans ce journal, on reviendra sur cet attentat. Hier soir à Jérusalem, 7 personnes ont été tuées par balle près d'une synagogue. L'auteur de la fusillade, un Palestinien de 21 ans, a été abattu par les forces de l'ordre. On sera avec notre correspondante à Jérusalem, Nathalie Sosna-Ofir. Dans ce journal, on évoquera également le problème du harcèlement scolaire. 4 mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas. Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbey, dans les Vosges. Et puis à la fin de ce journal, je vous emmène à un spectacle. On ira ensemble voir Le Roi Lion, deuxième saison au Théâtre Mogador. Un succès énorme, reportage de Laurent Sélarier et de Célia Barotte. Soyez les bienvenus avec moi ce matin, Marion Pariset, ravi de vous accueillir.
Ravi également.
Patrick Sarditi, journaliste, ravi de vous accueillir également.
Bonjour Thierry.
On va donc commencer ce journal en prenant la direction, vous connaissez, on en a déjà parlé, on va prendre la direction de l'île de Ré. Une manifestation aura lieu en début d'après-midi contre le déboulonnement d'une statue de la Vierge Marie. C'est à la Flotte en Ré. Cette statue avait été installée après la Seconde Guerre mondiale. Reportage sur place de Jérôme Rampenou.
La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la Flotte en Ré. Mais cela ne va pas durer. Le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas rester sur ce lieu public, aux grandes dames des habitants.
On est pour Caresse. On l'a toujours connu. On l'a connu un peu plus loin. Mais là, ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et l'arrêt des bus, c'est l'arrêt à la Vierge. Alors, c'est complètement idiot.
Il faut qu'elle existe. Il faut garder l'histoire. C'est une religion ou pas ?
Ça fait partie du patrimoine historique et il faut le garder. La laïcité, c'est bien, mais l'histoire, c'est important aussi.
L'association Touche pas à ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision, une bataille qu'ils mènent dans beaucoup de communes.
On considère qu'effectivement, il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux, en fait, il est minime par rapport au caractère historique qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que l'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne. Et donc ça a toute sa place dans la culture française d'avoir des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on défend aussi bien des statues de Colbert que des statues de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues de la Vierge.
La commune a 6 mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé, non loin de son actuel emplacement.
Marion Pariset, les recours se multiplient. Vous vous souvenez, on a parlé de la problématique des Sables d'Olonne, la problématique de l'île de Ré.
C'est vraiment des situations où on voit une forme de cancel culture qui s'exprime dans la société française. C'est problématique parce qu'on ne fait plus la distinction entre le combat pour la laïcité, le respect des croyances de chacun et finalement le respect aussi de notre histoire propre. On ne peut pas nier que notre histoire est liée fondamentalement à aussi une histoire religieuse. Et c'est triste qu'on en vienne à cette extrémité-là de finalement remettre en cause des marqueurs qui sont des marqueurs aussi de toutes nos croyances et de tout notre patrimoine culturel, religieux, artistique aussi, puisque ça reste une belle œuvre d'art.
Patrice, on peut parler de guerre idéologique avec toutes ces affaires qui, dont on parle assez souvent d'ailleurs sur les plateaux de CNews.
Le terme il est beaucoup trop fort. C'est pas une guerre. Là, il y a différentes associations qui se disent laïques et qui le sont certainement. Moi aussi, je suis profondément laïque, mais là, je suis désolé. Marion vient de le rappeler. C'est culturel, c'est historique, c'est complètement idiot. Il y a effectivement la possibilité pour la commune, par exemple, de céder ou de vendre le petit bout de terrain autour de la statue à une association privée. Et puis il y aura plus de problème si c'est vraiment ça qui. Jusqu'où on va aller franchement là, ils vont vouloir débaptiser tous les villages qui commencent par Saint-Tropez. Non,
parce que ça va être difficile.
Il y a Brigitte Bardot là quand même. Hein.
Bon, ben on verra, de toute façon, on suivra cette manifestation et on verra surtout s'il y a une grosse mobilisation. Direction Jérusalem, je le disais dans les titres, 7 personnes ont été tuées par balles hier soir près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. L'auteur de la fusillade, d'un Palestinien de 21 ans, a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit de l'une des pires attaques subies ces dernières années, selon le chef de la police israélienne. Je vous propose de faire le point avec notre correspondante sur place, Nathalie Sosna-Ofir.
Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 2011, un attentat qui intervient dans un contexte d'escalade des tensions depuis 48 heures. Avant-hier matin, l'armée israélienne a effectué un raid antiterroriste à Jenin, une ville palestinienne. 9 Palestiniens ont été tués dans un échange de tirs. En représailles, 6 roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël, donnant lieu à des frappes de Tsahal contre des positions du Hamas dans l'enclave palestinienne. Depuis hier soir, les condamnations internationales affluent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné une attaque abjecte le jour du souvenir de l'Holocauste. Le président américain Joe Biden a quant à lui dénoncé une attaque contre le monde civilisé et le Quai d'Orsay, une attaque infâme contre des civils au moment de la prière, le jour du souvenir des victimes de la Shoah. Ces prochaines heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou réunira son cabinet de sécurité pour décider de la réaction d'Israël à ce que les médias israéliens qualifient de véritable massacre. En attendant l'arrivée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Jérusalem et à Ramallah, dans 2 jours, une visite prévue depuis plusieurs semaines, destinée à l'origine à gérer des affaires courantes, mais qui sera bien sûr consacrée à gérer la désescalade de la violence.
Et Nathalie Sosna-Ofir est notre correspondante sur place à Jérusalem. Et je dois rajouter que ce matin, 2 personnes ont été blessées par balles lors d'une attaque dans un quartier de Jérusalem-Est. Patrice Arditi, c'est l'escalade. Hein.
C'est l'escalade et on s'y attendait un petit peu. Ces dernières heures, juste avant cet attentat, il y a eu des répercussions en Palestine avec des victimes une fois encore et on savait très 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 bien que ça allait réagir. Alors est-ce que ça allait réagir parce que M. Abbas aurait demandé à l'État d'Israël de calmer le jeu? J'en sais absolument rien. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça tombe à un très mauvais moment avec ce gouvernement qui est quand même ultra droite, vraiment, 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 et là tout le monde a les yeux tournés vers Monsieur Netanyahou, le Premier ministre, pour savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se montrer extrêmement offensif, encore plus que d'habitude, ou est-ce qu'il va essayer de calmer le jeu? Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce drame-là ne va pas rester impuni.
Évoquons maintenant l'inquiétant profil des revenants du djihad en Syrie. C'est à la une du Figaro ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le grand article qui est consacré à cette affaire. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants. Selon les magistrats et les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Explication d'Alexis Vallée.
Ce sont des profils lourds et alarmants, loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh. Endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre, certaines auraient même commis des actes de torture sur leur esclave domestique.
Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalachnikov et bébé dans les bras.
Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées, tout en restant au contact d'autres détenus.
Marion Parizet, ce qui vous interpelle un petit peu, c'est la considération des femmes dans le milieu islamique.
Oui, on a souvent tendance à les montrer comme des victimes ou à considérer qu'elles ont été naïves, qu'elles sont parties, qu'elles ont simplement suivi une volonté d'un rêve peut-être religieux. Mais derrière, on a des personnes qui se sont engagées dans un combat qui ont pris les armes, qui ont commis des crimes et qu'il faut en être conscient et ne pas prendre ça à la légère parce que derrière... On parle de phénomènes qu'il faut prendre en compte, notamment de déradicalisation. Et ça, en France, on n'a quand même pas encore réussi à trouver comment faire pour réellement déradicaliser quand on a des personnes qui se sont penchées dans des tenants aussi extrêmes du combat.
L'Amérique sous le choc après la diffusion de la vidéo extrêmement choquante de l'arrestation fatale de Tyre Nichols, un Afro-Américain mort à l'âge de 29 ans. Les images montrent les violences infligées par cinq Noirs dans le sillage d'un contrôle routier. À Memphis, c'était le 7 janvier dernier. Reportage Alexis Vallée.
Un long passage à tabac, des coups de poing, de pied, de matraque. Pendant de longues secondes, Tyre Nichols est même aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet taser à décharge électrique. Cette scène, captée par les caméras piétons des policiers, n'était au départ qu'un banal contrôle routier à Memphis, dans le Tennessee. Le suspect devait être arrêté pour une infraction et tentait de s'enfuir après une confrontation avec cinq policiers noirs. Hospitalisé, Tyre Nichols est décédé trois jours plus tard.
Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Il l'avait réduit en bouillie. Il avait des bleus partout. Sa tête était enflée comme une pastèque.
30 minutes après sa diffusion par la police, la vidéo devient virale et enflamme les États-Unis. Sur Twitter, le président Joe Biden a exprimé son indignation.
J'ai été indigné et profondément peiné de voir cette horrible vidéo. Cela rappelle la peur, le traumatisme profond, la douleur et l'épuisement que les Américains noirs et métis éprouvent chaque jour.
Les cinq policiers afro-américains, depuis licenciés, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.
J'ai connu effectivement ces images, sont très très choquantes et d'une rare violence, Patrick Sarditi.
Il y a quelques années, aux États-Unis, chez des amis, j'avais pu interroger justement un policier noir américain sur ce genre de choses. Il y avait eu quelque chose de un peu moins dramatique, mais je lui avais demandé, dans mon très mauvais anglais, comment il vivait ça lorsque c'était justement un noir qui commettait un méfait. Et il m'avait répondu très franchement, on me l'avait traduit, évidemment, il m'avait répondu très franchement qu'il faisait des efforts terribles pour être considéré comme un policier ni blanc, ni noir, ni asiatique, ni latino-américain. Et que, effectivement, lorsque l'un des siens, on peut dire ça comme ça, commettait un méfait, il avait une sorte de sentiment de honte. Et je me demande si ce n'est pas l'explication de cette énorme bavure-là.
Je voulais qu'on reparle de cette dramatique histoire. Quatre camarades du jeune Lucas vont être jugés pour harcèlement scolaire et entraîner le suicide. Pour rappel, Lucas, c'est ce jeune adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours début janvier à Golbey dans les Vosges. Les mises en cause, deux filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Écoutez la réaction de Stéphane Clerget, pédopsychiatre.
Ils vont être condamnés, bon, sont des mineurs et vu leur jeune âge, ils risquent pas grand-chose sur le plan pénal. Bon, je suis pas avocat, mais ils risquent éventuellement un accompagnement éducatif, au pire, au grand pire, d'être placés dans un internat surveillé. Oui, bien sûr, la punition fera qu'ils ne vont pas récidiver. Et bien sûr, un tel drame va calmer un peu le jeu de l'agressivité, du harcèlement dans cet établissement. Mais pour combien de temps ?
Oui, pour combien de temps, Patrick Sarditi ?
Je ne peux pas vous répondre. Je veux dire, c'est tellement tragique, ce genre de choses que... Il faut vraiment qu'il y ait une éducation dans les établissements scolaires qui dépasse tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais on n'empêchera jamais un petit con de demeurer un petit con si il n'y a pas des gens au-dessus qui essayent de le rendre un peu plus intelligent.
On reviendra sur cette dramatique affaire dans la deuxième partie de Midi News. Un mot rapide peut-être, Marion.
C'est un phénomène qui en plus s'accélérer avec le cyberharcèlement. Et là, on touche à des sujets où on n'a pas encore réussi à l'anticiper et à l'inclure dans la façon dont justement on sensibilise nos jeunes à tout l'impact de leurs décisions et de l'impact de leurs critiques, de leurs moqueries envers leurs camarades.
Dans le Val-d'Oise, le maire LR de Francoville se met en grève. Xavier Melki a décidé de couper les ponts avec les services de l'État. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. Je vous propose de l'écouter.
Moi, j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50% sur les denrées alimentaires. Qui constituent plus de 3000 repas par jour que nous faisons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, les villes ou certaines communes avaient été aidées. En 2023, les critères sont tels que, à ma connaissance, très très peu de communes seront soutenues par l'État.
Vous comprenez cette décision du maire de Francoville ?
C'est une décision qui est une décision d'un certain nombre de maires et d'élus qui en ont marre parce qu'ils ont vu leur recette et leur capacité à lever des fonds qui se sont vus diminuer au fur et à mesure des années avec la suppression de la taxe d'habitation. Et finalement, c'est ôter des moyens aux mairies que de supprimer leurs moyens et leurs recettes financières. Donc à partir de là, il y a une volonté aussi très honnête de se dire on veut avoir les capacités de faire ce pour quoi on a été élu, tout simplement.
Patrice, deux mots.
Il ne peut pas voter le budget, ça peut se comprendre. D'un seul coup, il a annoncé 55 millions de budget. Il a en catastrophe à trouver 180 000 euros. Où va-t-il les puiser, ces 180 000 euros, dans la poche de ses administrés? C'est pas possible. Alors ça va faire boule de neige.
Allez, une page au sport. Les Bleus se sont qualifiés hier soir pour la finale du mondial de handball. Je sais que ça vous fait plaisir, mon cher Patrice. L'équipe de France est imposée 31-26 face à la Suède en demi-finale à Stockholm. Et les Français affronteront en finale le Danemark, double tenant du titre. La finale aura lieu dimanche, demain, à 21h. On écoute Ludovic Fabregas, le meilleur marqueur du match.
Je pense qu'on a fait un super match. C'est vrai que gagner ici à Stockholm face à la Suède devant 22 000 personnes... et dans un championnat du monde, quand on gagne de 5, par rapport à la prestation, je pense que c'est certainement notre plus beau match de la compétition, ça c'est certain en tout cas. Et c'est une réelle satisfaction de pouvoir rejoindre la finale maintenant et de pouvoir jouer pour un titre de champion du monde.
Petite réaction peut-être, Cocorico ?
Patrice ? Oui, Cocorico, d'autant que franchement, le hand avait besoin de quelque chose de festif en ce moment, vu l'actualité.
Oui, mais il n'y a pas que le handball, il y a d'autres sports dont on parle beaucoup. On en parlera peut-être au cours des plateaux de Mini News Weekend, peut-être. Allez, je vous emmène, chose promise, chose due, je vous emmène au spectacle. Et quel spectacle, me direz-vous, depuis le mois de septembre, Le Roi Lion fait son gros retour pour une deuxième saison au Théâtre Mogador à Paris. Plus de 600 000 spectateurs sont déjà venus découvrir ou redécouvrir l'histoire de Simba et de ses amis. Les chanceux, reportage Laurent Célarier, Célia Barotte.
L'histoire de la vie, une chanson indissociable de ses personnages. Mufasa, Simba, Nala et leurs amis, tous sont réunis au Théâtre Mogador. 6 jours sur 7, près d'une cinquantaine d'artistes emportent les spectateurs dans l'histoire du Roi Lion. Un défi dont ils ne se lassent pas.
Tous les jours, le spectacle est différent parce que le public est différent, il ne réagit pas pareil à chaque fois. Donc on est obligé de jouer avec ça, mais aussi avec les humeurs du jour.
On a vraiment la possibilité de toujours réinventer, chercher, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement profond en termes de chant, en termes de danse, en termes de costumes.
Sur scène, pas de vrais animaux, c'est grâce aux 450 marionnettes et accessoires que le royaume du Roi Lion prend vie. Leur bon fonctionnement est géré tous les jours par Guylain Anderlé et son équipe. Et qu'il s'agisse des masques mécaniques ou des marionnettes, les effets scéniques sont multiples.
Donc on a la main gauche qui est glissée sous le corps de Zazu. Avec la pédale, j'actionne et je déploie les ailes. Et avec la main droite, j'ai l'index pour la bouche et le pouce pour les yeux. Et là, je peux lui donner tous les mouvements que je souhaite.
Il est encore possible de venir applaudir le Roi Lion à Paris. Le spectacle musical est prolongé jusqu'au 16 juillet prochain.
Alors Patrice, vous êtes retourné en enfance, vous l'avez vu en plus ce spectacle,
hein? Non, bien sûr, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps avec mes enfants. Vous disiez 600 000 spectateurs en France, 100 millions à travers le monde. C'est quelque chose de considérable. Et là, il faut voir la tête des enfants dans ce spectacle, quand ils voient une girafe de 5 mètres de hauteur qui arrive. Et évidemment, les cris, dès que Simba, et on le voit souvent, se projette d'un côté de la scène ou l'autre. Il y a des marionnettes, des centaines de marionnettes. Il y a une musique, mais de dingue. C'est vraiment du très, très beau spectacle.
Bon, je vous demande pas de chanter, Marion.
Non, ne me demandez pas. Il fait encore beau aujourd'hui.
Bon, eh bien écoutez, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Marion Parizet. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de News. Vous ne me quittez pas. Merci Patrice Arditi. On se retrouve nous demain.
Demain.
Hein, c'est ça. Tout de suite, les belles figures de l'histoire avec Émeric Pourbet. Et puis on se retrouve évidemment à midi pour la partie 2 et la partie 3 de Mini News Weekend. D'ici là, passez une belle matinée. Vous êtes bien sur CNews.